Mais on se rend compte, en fait, après cette volonté de gratter votre passé, le passé de vos ancêtres, etc., vous voulez vraiment vivre le présent. D'ailleurs, vous le dites, à partir de 2005, l'histoire au présent, les visages au présent. Pourquoi vous avez eu envie de découvrir justement ce présent ?
Moi, je pense que... je vais dire une banalité, je pense qu'on vit au présent, là en ce moment on est en train de se parler, hein, au présent, et on envisage le futur. Mais on a le passé contre un bal aussi. Donc on a ces trois choses qui en permanence se mélangent. Être dans le présent, c'est déjà une façon de chercher la porte du futur, la porte de sortie ou la porte d'entrée du futur. Et je pense que dans cette histoire-là, c'est indispensable. On ne peut pas rester que sur le passé. Ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, je ne peux pas l'envisager. C'est-à-dire que je l'ai avec moi, j'ai essayé de le digérer, essayé de trouver la bonne distance avec ça, avec l'identité qu'a formé aussi ça. Par exemple, il y a une chose que je n'accepte pas. Là, je fais une petite digression. Je n'accepte pas, mais ça c'est moral, hein, c'est personnel, ça n'engage vraiment que moi. Je n'accepte pas que les enfants, nos enfants, soient porteurs uniquement de l'identité de l'amputation de l'histoire de leurs ancêtres, de la lourdeur de l'histoire de leurs ancêtres. C'est pas possible, parce que s'ils sont dépositaires que de ça, d'une certaine façon, ils vont avoir de la haine de par qui cette chose est arrivée, de comment ça a été fait, et ils vont avoir du mal à s'en départager après. Il ne faut pas leur cacher, il ne faut pas leur mentir, il faut leur dire, mais il faut aussi relativiser par rapport à la façon dont les choses se sont passées, les responsabilités qu'ils doivent être partagées et l'exigence qu'ils peuvent avoir eux vis-à-vis de ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des films, je pense. C'est aussi, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'aussi j'ai fait les films pour mes enfants aussi et pour les enfants des autres. C'est qu'on a quelque chose, c'est pour ça que parler du présent est indispensable pour leur parler directement, parce que sinon on crée des clivages de génération, générationnels, où la lourdeur de ce qui est apporté ne peut plus passer. Pourquoi un enfant aurait envie d'être porteur et dépositaire de la tragédie et de la catastrophe qu'ont vécu ses grands-parents ou ses parents? Pourquoi? Pourquoi il se dirait que ma vie doit être entachée à jamais par ça? Ben non. Il a aussi envie de comprendre, certes, de le savoir, mais surtout pas de plonger dans la haine que ça peut générer, mais plutôt d'essayer de comprendre, de fouiller. Aujourd'hui, en France en particulier, on vit dans un pays démocratique, il y a des universités, les gens étudient, écrivent des thèses, écrivent des livres, écrivent des films, on peut s'exprimer là-dessus, il faut le faire. Et il faut essayer que cette liberté d'expression arrive là où elle doit arriver aussi, c'est-à-dire justement dans ce cas précis en Turquie.
Justement, on constate que... En acceptant ce présent, en acceptant de voir le présent, vous en apprenez même plus du passé, et grâce notamment à un jeune donc habitant de Soleuse qui vous aide dans votre parcours. Est-ce que finalement, c'est pas la solution du dialogue? Accepter le présent, se dire, se tourner vers le présent pour finalement réconcilier le passé et puis envisager un futur?
Ça serait formidable que ce soit comme ça, ça serait simple. Je pense que c'est une voie. De toute façon, considérer le présent tel qu'il est, sans trop d'a priori, serait, je dirais, le préalable d'un dialogue possible. Mais il faut savoir sur quel terrain on se situe, sur quel terrain on situe le présent. Par exemple, je prends des exemples. Si le présent, dans le cas de la relation d'un Arménien avec la Turquie, et d'un Turc avec l'Arménien, si tant est qu'il y a une relation voulue de part et d'autre, si elle est que chacun doit rester sur sa position de « moi j'exige de toi une reconnaissance avant tout, avant même que de t'adresser la parole et d'avoir une relation avec toi », et que l'autre de son côté dise « moi je me sens pas coupable, je ne veux pas qu'on me culpabilise avec ça, je ne suis pas responsable de ça, mais je n'en sais rien, et à mon avis il ne s'est rien passé », je pense qu'il n'y a aucun dialogue possible. En revanche, si d'un côté il y a « je ne suis pas là pour te culpabiliser trois générations après, mais je voudrais à minima que tu me dises ce que tu sais sur cette période, et si tu ne sais pas, est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Pas moi, mais ce qui a été écrit, ce qui a été démontré, la preuve dont moi je ne veux plus faire d'ailleurs. » C'est-à-dire, c'est ça aussi le problème, c'est que les enfants des rescapés passent leur vie à faire la preuve. C'est terrible, c'est horrible à porter comme tâche. Je vais passer ma vie à démontrer que le génocide arménien a existé et qu'on appelle ça un génocide. C'est absurde. Parce qu'à un moment donné, je tourne moi-même en rond, en roue libre là-dessus. Non, la question c'est, il y a des historiens qui ont écrit, il y a des preuves intangibles, voilà. Elles sont elles sont là, elles sont accessibles, sauf s'il y a des détracteurs de ça, ou s'il y a négation d'un côté, de façon étatique, ce qui est un peu le cas en Turquie, plus qu'un peu, disons, il y a une négation au départ, des États qui se sont succédés, des gouvernements plutôt, qui se sont succédés depuis 1923, mais ça, les causes, je veux bien en parler après, à mon avis, je les connais, pas, je ne suis pas le seul à savoir pourquoi jusqu'à maintenant c'est comme ça. Je pense que c'est profondément ancré dans quelque chose qui est devenu inextricable, et pourtant il faudrait trouver la porte de sortie, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont quand même conscience qu'il va falloir. Et donc, pour ne pas aller faire trop de digressions, je dirais que ce dialogue que je désire, moi, profondément, en termes individuels, en conscience, avec la société civile, je le répète, comme que je l'ai dit au début, je ne sais pas, hors antenne peut-être, que je pense, je ne parle pas au nom d'un parti, je ne parle pas au nom d'une association, d'une organisation, je parle à mon nom propre, et je parle aux gens qui peuvent entendre en leur nom propre la capacité qu'on aurait de se parler en dehors des sentiers battus et des réels politiques d'un gouvernement, d'un parti ou d'autre chose. Je parle de la nécessité qu'auraient des gens qui sont dans le non-savoir, dans la négation, de comprendre, d'essayer d'accepter et de ne pas le prendre à leur compte, mais seulement de se sentir responsable de cette négation et de dire, ben non, je vis peut-être dans un pays où on m'a caché des choses, j'ai envie de le savoir, et une fois que je le sais, je le partage. Et je pense de l'autre côté, enfin le désir d'un Arménien serait à partir de ce moment-là, évidemment, que de rentrer dans un vrai dialogue et de partager.
Justement, sur ce sujet, est-ce que vous voyez une évolution? Enfin, on la remarque, nous, dans votre documentaire, entre 87 et 2005, finalement, notamment avec le jeune Amit, donc qui a l'air de vouloir s'ouvrir un petit peu les yeux et d'aller plus loin, mais qui reste quand même sur la position où il dit, bah non, moi je pense qu'il n'y a pas eu de génocide. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration? Et la deuxième partie de ma question, ça serait plus sur votre identité à vous. Donc au départ, vous partez plus avec votre identité d'acteur, de comédien, puis finalement pour revenir en tant que cinéaste, mais petit-fils arménien, et en 2005, quelle était votre identité et comment votre identité à vous a-t-elle changé ou s'est-elle formée par rapport à ces voyages?
Non, c'est une super bonne question, parce que c'est les clés de la compréhension de certains nombres de choses aussi vis-à-vis de ce film. Alors, pour répondre à la première question, c'était quoi déjà, excuse-moi?
Par rapport à l'évolution des Turcs, entre 87 et 2005, nous parlons par rapport à Hamid.
Oui, l'exemple de Hamid, qui est le dernier personnage traité dans le film, qui est le jeune avec qui naît l'idée du musée et tout ça, c'est que je pense que vous, les médias, les sites aujourd'hui, les journaux écrits en Turquie, beaucoup de gens lisent les journaux, les débats publics jouent un rôle fondamental. C'est-à-dire que justement la société civile a besoin que par les médias, c'est-à-dire par l'écrit, par le parler, par l'image, même si on n'est pas d'accord à prime abord, que l'information parvienne. Parce que finalement dans le film les gens disent qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne disent pas que ça n'a pas existé complètement tout ça. Ils disent, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ah bon, mais je ne peux même pas l'envisager que ça a existé. C'est là où je pense qu'ils sont sincères. C'est parce que par exemple, si on prend l'exemple de Levent, je fais une petite digression, qui est le personnage d'avant. Levent, il traite le Triumvirat, Enver, Stalat et Cemal de dictateurs. Il dit que c'était des dictateurs qui ont entraîné le pays dans la guerre et qui ont commis l'erreur de dépecer l'Empire ottoman en s'engageant dans la guerre auprès des Allemands. Mais il dit qu'il ne peut pas envisager qu'ils aient commis irréparable vis-à-vis des Arméniens, que c'est juste la guerre qui a fait ça. Donc voilà. Mais je sais que Levent évoluera parce qu'il m'a rencontré, parce qu'il m'a entendu, parce qu'il va lire les journaux, parce qu'il va s'intéresser en dehors de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est ouvert aussi en Turquie. Je sais que tous les jours, les journaux, qu'il n'y a pas seulement d'opposition, même les journaux de nationalistes et de droite parlent de ce problème, même si c'est parfois pour le noyer le poisson. Non, pour, je veux dire, rester négationniste. Mais ça parle, c'est déjà pas mal. Ça, je veux dire, ça avance. En ce sens, ce film, il témoigne de cette évolution. Il témoigne qu'en 87, c'est tabou, blackout, on n'en parle pas. En 2003, on a envie de parler. D'ailleurs, de l'autre côté, parce que ça veut dire que non seulement ils ont envie de m'accepter, mais ils veulent en même temps eux-mêmes s'exprimer. Et en 2005, c'est clairement exposé que la question est posée. C'est-à-dire, je doute. Hamid va dire, je doute. Vous dites qu'un génocide a eu lieu. On m'a dit que ça n'a pas eu lieu, donc je dis que ça n'a pas eu lieu. Mais moi, je veux comprendre. Donc, parce que les journaux en parlent, parce que le monde entier en parle. C'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, vous, les sites, par exemple, un mythe qui dit qu'il a un ordinateur, il peut aller sur Turquie européenne et écouter ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de lui. Avant-hier, cette chose était impossible. Je veux dire que justement les médias indépendants, souples, ne pouvaient pas, c'était contrôlé toujours par les États. Là, on a une capacité de se parler. En ce sens, je pense que les radios, Internet, les sites sont une réelle évolution pour une démocratisation de la pensée et une capacité de faire circuler le débat. Et le plus important, c'est de débattre, je pense. Et quant à la deuxième question... Je pense en effet qu'en 87, je n'étais pas encore un réalisateur confirmé, puisque j'avais fait que deux films ou trois films documentaires, et que j'y vais comme acteur et aussi un peu réalisateur, puisque j'allais au Festival du Théâtre pour filmer une pièce française. Et que chemin faisant, je vais devenir réalisateur, tout en continuant à jouer, et que c'est un film que j'ai réalisé qui va m'amener là-bas. Donc j'ai plus le statut de réalisateur, donc de celui qui a envie de construire. Il ne vient pas juste en tant que témoin, comme ça, hasardeux. Il a envie de construire, donc j'y vais avec des caméras. Là, déjà, on commence à me voir à l'image, on est deux ou trois à filmer, tout ça. Et après, la volonté d'écrire ce film pour 2005. Donc chez moi aussi, il y a toute une évolution du regard, de la construction, de comment faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. J'aurais très bien pu... parce qu'il y a des réalisateurs qui le font, juger les gens que je filme. J'aurais très bien pu dire, mais vous êtes totalement dans l'ignorance. Mais comment c'est possible que vous soyez dans l'ignorance? J'aurais pu dire, vous êtes négationniste. Hein. J'aurais pu dire des choses comme ça. Mais justement, parce que j'ai réfléchi, et parce que j'avais, d'abord parce que je n'ai aucune envie de faire ça, et deuxième, même si je le pense, qu'ils peuvent être dans l'ignorance et qu'il va falloir le dénoncer, j'ai plutôt envie... de ne pas culpabiliser et de laisser les gens en déduire par eux-mêmes de pourquoi ils sont dans l'ignorance, de comprendre par eux-mêmes quelle est leur situation. Et un film doit avoir cette capacité de ne pas passer par le jugement de l'autre, mais d'exposer. Et quand Roland Tink a vu le film, qui était plus long, pas fini encore à l'époque, à Istanbul, avec Chingiz Aktar et d'autres, et quand on en a parlé après, il m'a dit, mais pour moi, la chose la plus essentielle de ce film, c'est le témoignage que ces gens ne savent pas, et donc qu'il y a un travail de pédagogique, et ce qu'on essaie nous de dire à travers le journal à gauche et à travers les démocrates en Turquie et les partis d'opposition, c'est qu'il y a un travail avant tout pédagogique à faire au niveau interne. Il y a un travail à faire sur les écoles, les enfants, l'histoire, qui est de reprendre les choses à zéro, de les objectiver, de ne pas rester sous le sceau de gouvernements qui successivement ont fait l'impasse de ce qui s'est passé avant 23. Avant 23, il y avait l'Empire ottoman, on n'en parle plus, c'est tout. Voilà.
Est-ce que justement votre projet, c'est un travail dans ce sens-là pour les Turcs, pour les Arméniens, pour la diaspora, pour vous?
Oui, je pense que moi, sans être militant justement et sans être non plus pédagogue, parce que j'enseigne pas, je pense que les films documentaires ont cette vertu, c'est qu'ils sont faits avec les matériaux réels, et donc il peut y avoir interprétation parce qu'il y a eu montage, mais on voit jusqu'où il y a interprétation et on voit jusqu'où la véracité est là. Et je pense que la vertu d'un film documentaire, c'est de faire réfléchir, c'est de donner quelques éléments aux spectateurs réfléchir par soi-même, pour avoir des éléments pour fouiller. Sur le fait, je suis très heureux de donner cette interview à un site qui s'appelle Turquie Européenne, parce que j'ai très envie que le public d'origine turque vivant en France puisse venir assister à ces débats au même titre qu'un public français ou d'origine arménienne, parce que c'est ça, c'est de ça que finalement que j'ai envie. C'est que les gens se retrouvent ensemble dans un lieu pour partager quelque chose de commun, qu'ils soient d'accord, pas d'accord. On est en démocratie, on peut se parler, on peut échanger, on peut essayer de comprendre.
On peut dialoguer. Et d'ailleurs, pour vous, quel est l'avenir de ce dialogue, que ce soit en Turquie, en Arménie, en France, au niveau de la diaspora arménienne et des originaires de Turquie?
Je pense que, je répète, que les médias jouent un rôle très très important, mais aussi les institutions. Je pense que le double jeu, parce qu'on peut l'appeler comme ça, mené par les institutions européennes vis-à-vis de la Turquie, qui est que on veut les négociations, on souhaite que vous rentrez en Europe, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a Chypre, il y a la démocratie, il y a le génocide arménien et autres, est une bonne chose, d'une certaine façon, par rapport aux démocrates et à tous ceux en Turquie qui, sur place, souhaitent un dialogue social, politique, plus pluraliste, plus ouvert, que ça ne soit pas que l'armée qui soit le garant d'une laïcité dans ce pays, que ça ne soit pas qu'un parti qui s'appelle l'AKP, qui sont des islamistes modérés, certes, mais qui décident unilatéralement que le voile doit être accepté, même si c'est pas en soi grave, hein, mais il faut voir les conséquences après. Voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la Turquie est en plein mouvement, mais il faut que ce mouvement prenne un réel ampleur et que le fait que le pouvoir maintienne encore, serre encore le poing sur le dialogue, j'espère qu'il va y